l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Soyez les bienvenus, Présence Midi, nous sommes en direct, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, vous le savez, cette semaine, c'est la Toussaint, nous fêtons nos saints ce 1er novembre, cette fête est associée à la commémoration de nos défunts le 2 novembre. D'autres pays du monde, comme au Mexique, la commémoration des défunts fait l'objet de coutumes et de traditions qui se perpétuent et se transmettent de génération en génération, et c'est dans ce contexte que du 4 au 6 novembre prochain aura lieu au Musée des Amériques à Auch, un colloque international consacré aux textiles précolombiens et amérindiens. Un reportage à écouter dans quelques minutes, reportage sur place à Auch de Pauline Cazier. À 12h30, on va recevoir toute l'équipe d'Un jour en livre, en auteur Philippe Subercas, Diego Arabal et Philippe Noni. Cette semaine, ils ont sélectionné un recueil de nouvelles sur notre rapport avec la nature. Ils vont recevoir tout à l'heure à 12h30 l'auteur de ce recueil, Viviane Campomon. Pour le moment, on place à l'actualité régionale avec les titres qui seront développés à 12h30 par Éric Leclerc.
Organisation temporaire des urgences adultes du CHU de Toulouse en raison d'une tension temporaire sur les effectifs médicaux des urgences dans un contexte national de difficultés de recrutement sur cette spécialité. Le fonctionnement des urgences adultes de Purpan et Rangueil est modifié pour les mois de novembre et décembre. Objectif, sécuriser le dispositif d'urgence préhospitalière et de maintenir la capacité d'accueil des urgences nécessitant le plateau technique du CHU de Toulouse. L'enjeu est également de préserver les conditions de travail des professionnels. Salon de l'enseignement supérieur de Montauban, rendez-vous est pris pour la deuxième édition le 22 novembre. Les objectifs sont multiples, notamment apporter des réponses aux besoins des familles et renforcer l'orientation et la valorisation des formations post-bac du territoire. Cet événement vient également favoriser l'interconnaissance entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de l'orientation et de la vie étudiante. Le salon de l'enseignement supérieur se déroulera à l'Eurythmie à Montauban, samedi 22 novembre de 9h à 17h. Après plusieurs mois de travaux, les ruténoises et ruténois ont découvert ce week-end des nouvelles halles de Rodez. Ce lieu entièrement repensé s'affirme comme un espace de vie, de partage et de convivialité au service de la population. Les halles occupent en effet l'emplacement même où fut érigé en 1880 le premier marché couvert de Rodez. Avant sa destruction en 1930, les halles de Rodez s'imposent comme un pôle alimentaire et convivial. Ce nouvel espace a pour vocation de devenir un lieu de rencontre, d'échanges et de découvertes.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve à midi et demi pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure Éric.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Vous le savez, cette semaine, c'est la Toussaint. Nous fêtons tous nos saints ce 1er novembre. Cette fête est associée à la commémoration de nos défunts le 2 novembre. Un moment fort dans l'année liturgique pour tous les catholiques. Et dans d'autres pays du monde, comme au Mexique, la commémoration des défunts fait l'objet de coutumes et de traditions qui se perpétuent et se transmettent de génération en génération. C'est dans ce contexte que du 4 au 6 novembre prochain aura lieu au Musée des Amériques à Auch un colloque international consacré aux textiles précolombiens et amérindiens. Un événement pour la ville puisque les éditions précédentes s'étaient déroulées à Paris, Stockholm et Milan. Florence Fiol, adjointe à la culture, et Fabien Ferré-Joly, directeur du musée, vont nous parler notamment de la journée des morts. typique de la culture mexicaine. Cette journée se déroulera ce vendredi 31 octobre de 18h à 23h à Auch. Des animations nocturnes, festives et joyeuses sont ouvertes à tous. On écoute le reportage de Pauline Casier à Auch.
Voilà, on est très heureux d'accueillir du 4 au 6 novembre les 10e journées qui apparemment s'était tenue à Milan, Paris, Barcelone, Stockholm. Bon, c'est pas mal pour la ville d'Auch de pouvoir accueillir ce colloque qui va réunir 13 nationalités différentes. Donc la France, Allemagne, Écosse, Belgique, Espagne, Suisse, Pologne, Italie, USA, Colombie, Mexique, Pérou, Bolivie. Et il y aura également des personnes qui seront là par visio, des chercheurs d'Écosse, de Pologne, du Mexique et d'Italie. De nombreuses thématiques vont être abordées pendant ces 3 jours, des iconographies et symbolismes des textiles, l'étude stylistique et culturelle des textiles archéologiques, l'analyse scientifique appliquée à l'étude des textiles, techniques, matières et colorants, les dimensions sociales, culturelles et environnementales de la production des textiles. Voilà, des sujets très très riches et alimentés par différentes cultures. Et comment ces fils vont venir se croiser pendant 3 jours sous l'organisation de l'équipe du Musée des Amériques. Voilà, donc nous on est très très fiers. Je peux féliciter M. Ferrer Joly du travail qu'il a engagé pour que ça puisse se mettre en œuvre.
C'est vraiment donc une chance, une charge, parce qu'effectivement, c'est une responsabilité. On avait été contacté parce qu'on était en relation avec différents chercheurs, puisque bon, on a nos collections précolombiennes, mais au-delà de ces collections, nous avons au sein de cette collection une collection de textiles précolombiens qui est même certainement la plus grande en France. Là, pour le coup, devant le Quai Branly. Mais il y a quand même quelques collections importantes donc en Europe, et on en fait partie, ça c'est sûr. Donc, bien entendu, ça les intéressait de pouvoir donc, situer, localiser ce colloque spécialisé donc, sur les textiles précolombiens et amérindiens, donc à Auch. Donc voilà, donc, ça nous était proposé, on a accepté un peu le challenge, parce que ça en est un, d'accueillir donc, à la fois tous ces chercheurs, de faire un colloque qui soit à la fois moitié en présentiel, moitié en distanciel, parfois les deux en même temps, parce qu'il y a donc certaines communications qui vont être faites ici et aussi en distanciel, ce qui va poser des problèmes aussi techniques. Donc on se fait donc aider aussi et par le service informatique de la ville et par différents contributeurs. Donc voilà, donc c'est un challenge. Mais en tout cas, nous, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est le partage de connaissances avec ces différents chercheurs qui viennent de plein d'universités. Là, par exemple, je vous disais, donc l'université de Washington, de Pennsylvanie, donc il y avait aussi de Chicago, les pays d'Amérique latine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour ceux qui vont pouvoir venir ici, on va leur permettre déjà de connaître un petit peu la ville, donc ça c'est bien, mais surtout de leur montrer nos collections. Donc on va pouvoir les sortir, toutes celles qui sont en réserve et qu'on ne peut pas présenter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le musée va être fermé pendant le colloque, puis ça nous permet vraiment de pouvoir sortir ces textiles, de les montrer, de les mettre dans les salles, et que ces spécialistes, parce que là ça va être parmi les plus grands spécialistes sur le domaine, vont pouvoir les examiner. Donc c'est vraiment une somme de connaissances. Comme l'a dit donc Florence Fillol, finalement, on a réparti ce colloque en plusieurs thématiques. Et donc, il y a des choses vraiment à la fois très techniques. Alors, le colloque est accessible à tout le monde, même en visio, donc tout le monde peut gratuitement. En présentiel, il y a quelques personnes qui vont venir, qui se sont inscrites en plus. Donc, on est à peu près, la salle sera plus ou moins pleine. Mais en même temps, ce sont des conférences qui ne sont pas à destination du grand public. C'est vraiment très professionnel. Ça va être très technique, très pointu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça touche un peu toutes les périodes, depuis la période précolombienne, donc très ancienne, jusqu'à la période contemporaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi vraiment de terminer par une conférence un peu particulière, qui s'assied être en anglais, qui parle de la période de l'Anthropocène, c'est notre période, et notamment de tous ces immenses monceaux de textiles contemporains qui sont malheureusement déversés dans le désert d'Atacama, donc au Chili, et qui risquent d'être conservés pendant des millénaires, parce qu'effectivement le climat donc le permet. Et comme en Afrique, c'est pareil, donc c'est un peu le lieu de destination de notre fast fashion. Et donc c'était intéressant de pouvoir terminer cette conférence sur cette thématique écologique et sur cette problématique. Voilà. Donc ça va être un grand moment, donc durant trois jours.
4 au 6 novembre.
4 au 6 novembre. En tout, il y aura 32 communications sur trois jours, donc c'est intense, en trois langues. Parce que, ça va faire vivre un petit peu aussi le commerce local, puisque donc, ces personnes vont être donc, sur Auge, vont manger donc, sur Auge. Et c'est aussi pour nous une façon de faire connaître à l'international le musée, qui n'était pas forcément connu, le musée et ses collections. Donc voilà, donc c'est un pas de plus vers cette reconnaissance. Voilà, tout à fait.
Je ne sais pas si on peut dire un mot de la journée du 31, la journée des morts.
Si. Bah, écoutez, c'est aussi maintenant, ça devient un peu un classique chez nous. Donc ce n'est pas, maintenant on le précise moins, mais avant on le précisait beaucoup, ce n'est pas Halloween, c'est la Dia de los Muertos, qui est vraiment une fête traditionnelle donc, au Mexique, bien plus ancienne, et qui fait référence surtout donc, aux traditions anciennes donc, et cette relation à la mort qu'avaient donc, les populations donc, préhispaniques d'avant la conquête, et où on s'aperçoit que la mort n'est pas une fin en soi, et qu'il y a vraiment une relation très directe avec le monde des ancêtres, le monde des morts, et que c'est aussi quelque chose de très joyeux. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire cette fête ici. Et tous les ans, on essaye de monter en puissance. Donc là, cette année, revient une troupe Culture en Mouvement qui est vraiment exceptionnelle. Donc là, ça va être quelque chose vraiment de fantastique. Les acteurs seront présents dans les salles, vont faire comme ça, un peu de stand-up. Il va y avoir des animations pour les enfants, des éclairages particuliers, une ambiance musicale. Enfin voilà, ça va être une très très belle soirée, surtout que celle-ci va avoir lieu un vendredi soir, et généralement donc ça marche très très bien le vendredi soir.
Il y a beaucoup de monde.
Hein. Beaucoup. La dernière fois qu'on avait fait ça, donc 700 personnes dans la soirée, c'est beaucoup. On s'attend donc à vraiment une belle animation.
Il faut réserver pour
Les ateliers, pour les enfants certainement. Par contre, pour le public, non. Par contre, ça reste payant, c'est gratuit pour les enfants, ça reste payant pour les adultes, mais s'ils font un effort et qu'ils sont donc déguisés, ce sera demi-tarif pour eux. Et avec même un concours du meilleur déguisement. Voilà, bien sûr.
Voilà, c'est du 4 au 6 novembre prochain qu'aura lieu au Musée des Amériques à Auch, ce colloque international consacré aux textiles précolombiens et amérindiens. Un reportage de Pauline Casier à Auch que nous remercions.
Présence.
Après Auch, direction dans un instant Ibos. Ibos, ça se trouve à côté de Tarbes avec une experte en méthanisation. C'est Sophie Villard qui sera au micro de Benoît Guillard dans moins d'une minute.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Bagnères-de-Luchon. 94 FM.
Merci d'avoir choisi Radio Présence à 12h13 en plein cœur de Présence Midi. Dans un quart d'heure, le journal régional avec Éric Leclerc. Pour le moment, direction Ibos à côté de Tarbes. On retrouve Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Ibos. Ibos, juste à côté de Tarbes. Et le choix que j'ai fait, c'est de mettre à la lumière une femme qui est connue dans le territoire, qui est force d'initiative et puis d'innovation, qui s'appelle Sophie Villard. Et donc Sophie Villard, elle a une compétence experte importante autour de tout ce qui concerne la méthanisation. Et donc je trouvais ça très intéressant de la rencontrer, de vous faire, chers auditeurs, rencontrer Sophie Villard pour parler justement de ces enjeux très importants dans ce qu'est le réchauffement climatique, de la méthanisation. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Peut-être simplement, on va vous demander de vous présenter pour les auditeurs et puis nous expliquer un petit peu toutes ces belles choses que vous faites depuis un petit moment maintenant.
Oui, un petit moment, une 30 ou 40 années professionnelles, donc au service des projets et du développement agricole. Dans une première partie de ma vie, ça s'est passé à l'étranger, dans les pays du Sud, entre l'Afrique centrale et Madagascar. Et dans un deuxième temps, je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, à la Chambre d'agriculture et depuis je travaille donc avec les agriculteurs de ce département. Dans les années 2000, j'étais à Lourdes au sein de la COP des Gaves. Donc pour valoriser les productions locales et permettre aux agriculteurs de vendre en direct leurs produits. Et depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai créé une activité donc autour de la méthanisation agricole.
Donc peut-être dire à nos auditeurs un petit peu les principes en toute simplicité de la méthanisation et les enjeux par rapport notamment à l'agriculture des Hautes-Pyrénées.
Alors le principe de la méthanisation est assez simple. Il faut imaginer un gros estomac dans lequel on va intégrer des résidus de culture, des fumiers et des lisiers. Et grâce à une réaction anaérobie, donc ce mélange qui va être chauffé pendant 30, 40 ou 50 jours va permettre donc la production de biométhane qui, une fois épuré, est donc réintégré dans les réseaux de gaz de ville et ensuite est distribué donc dans toutes les maisons comme l'est traditionnellement le gaz de ville. C'est exactement la même molécule en fait que le gaz naturel, qui est un gaz fossile donc issu de l'épuration du pétrole.
Effectivement, et puis les enjeux avec la crise énergétique qu'on a connue depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, les enjeux c'était aussi d'avoir recours à des ressources locales pour pouvoir produire de l'énergie et de l'énergie renouvelable, et c'est l'idée aussi de la méthanisation, c'est ça, hein ?
Oui, c'est bien l'idée de la méthanisation, mais avec une autre richesse. La première richesse, c'est donc le gaz qu'on va intégrer dans les réseaux, et là on a un gaz qui est renouvelable, avec un bilan carbone qui est équilibré, puisqu'en fait, ce CH4 est issu arrive donc des plantes, les plantes qui ont été mangées par les vaches qui ont fait des fumiers, mais on reste du coup dans on va pas chercher du carbone dans le sol, on profite du carbone qui est dans notre environnement. Le deuxième intérêt, c'est qu'après la méthanisation, on va récupérer donc une sorte de boue qui reste au fond du digesteur. Et ce digestat, enfin cette boue qu'on appelle digestat, va être répandue sur les champs comme auraient pu l'être les lisiers et les fumiers. L'avantage de ce digestat, c'est qu'il a plus d'odeur, contrairement aux lisiers et aux fumiers. Et en plus, il a une composition qui est constante et on a une bien meilleure maîtrise de l'azote et des produits fertilisants. Ce qui fait que derrière, par l'utilisation de ce digestat, on peut améliorer les pratiques agronomiques avec une bien meilleure maîtrise de la fertilisation et on peut du coup réduire énormément. On dit qu'entre 50 et 90% des intrants minéraux peuvent être supprimés sur l'exploitation grâce à l'utilisation de ce digestat. Le troisième grand intérêt de la méthanisation, c'est que du coup on produit du gaz sur notre territoire. Le biogaz devient donc une production agricole. Et ce biogaz peut être utilisé pour la mobilité. Or, le gaz dans la mobilité, c'est des véhicules qui font beaucoup moins de bruit que des véhicules diesel traditionnels. Et c'est surtout des véhicules qui, du coup, ne vont pas émettre beaucoup moins de CO2. Et s'ils émettent du CO2, c'est donc un CO2 d'origine environnementale et non pas fossile.
Alors, si je comprends bien, c'est assez extraordinaire ce que vous nous expliquez, puisque en fait, on comprend que finalement, ce qui pourrait être un déchet, au vu d'une exploitation agricole dans le modèle traditionnel, devient en fait une richesse à toute l'humanité, et en particulier pour les habitants de ce territoire, puisque alors que c'était vécu notamment par les habitants du territoire comme étant quelque chose qui sentait mauvais, etc., finalement, ces lisiers, ces fumiers, ils peuvent devenir un petit peu de l'or, quoi.
Et alors, j'irai même encore plus loin que ça. C'est une filière qui est complètement magique et qui est d'autant plus magique sur nos territoires ruraux qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles filières. Les nouvelles filières aujourd'hui très technologiques n'arrivent pas beaucoup sur nos territoires. Or là, on se retrouve, on part d'une production agricole. On va produire grâce à un procédé un peu industriel, donc du gaz. Et puis derrière, ce gaz, on va l'utiliser soit pour alimenter l'hôpital, les maisons, ou alors alimenter nos voitures. Et donc, autour de cette filière, on réunit tout le monde. On réunit les agriculteurs d'un côté qui produisent, on va réunir les techniciens, que ce soit des soudeurs, que ce soit des techniciens de maintenance, que ce soit des gens qui interviennent donc dans les industries. Et puis, à l'autre bout, on réunit tous les citoyens et on réunit également tous ceux qui sont dans le transport, tous ceux qui roulent, c'est-à-dire tout le monde, quoi.
Je vais faire assez rapidement un petit pour bien comprendre que lorsqu'on a parlé, notamment dans l'émission, on a parlé des projets alimentaires territoriaux où on mettait tous les acteurs autour sur les enjeux de l'alimentation, mais là, sur l'enjeu de l'énergie, c'est un peu la même démarche, c'est le même processus et c'est les mêmes enjeux sociaux aussi, donc ça c'est assez formidable. Et vous, Sophie, en fait, vous portez cette ingénierie, cette expertise et vous essayez, si j'ai bien compris, de développer cette expertise auprès des acteurs susceptibles d'être intéressés.
Alors, on essaye de développer pour cette expertise pour pouvoir développer un certain nombre de projets en rajoutant juste un élément, c'est que non seulement on peut réunir tout le monde autour de la table, mais puisqu'aujourd'hui l'État a défini des prix garantis d'achat du gaz, on se retrouve donc pas dans une compétition entre les uns et les autres. On peut être tous autour de la table, il n'y a pas de question véritablement d'argent, même s'il y a des grosses sommes en cause. Et donc, on peut tous parler de manière concertée et puis équilibrée.
Et alors, si j'ai bien compris les explications que j'ai eu la précaution de prendre avant qu'on se rencontre, en plus, vous y mettez aussi de l'économie sociale et solidaire, parce que derrière ces réflexions, en fait, les acteurs de développement, ce sont aussi des coopératives, en fait.
Oui, on a essayé de bâtir donc avec la coopérative Ecogaz, qui aujourd'hui est une structure gérée par les agriculteurs, mais dont l'objectif est de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires de la filière pour pouvoir développer des projets et faire connaître le biogaz à tout un chacun. Donc Ecogaz porte aujourd'hui donc la maîtrise d'ouvrage pour le développement d'unités de méthanisation. Et on a essayé de bâtir un modèle un petit peu original en partant du constat que les agriculteurs n'étaient pas forcément en mesure d'investir des grosses sommes dans des unités de méthanisation et ne maîtrisaient pas non plus ces techniques industrielles qui ne sont pas de leur métier, quoi, qui sont particulières. Donc en fait, la coopérative Ecogaz assure la maîtrise d'ouvrage pour faire émerger des projets sur des territoires. Du coup, en apportant la compétence nécessaire pour la définition des lieux où ces installations peuvent se faire, la conception technique, le montage financier. Et lorsque tout ça est prêt et que les unités, quelque part, sont prêtes à être construites, eh ben, entre-temps, les agriculteurs se sont organisés et ils sont en mesure, du coup, de bâtir une coopérative agricole qui va être propriétaire de l'unité de méthanisation et qui va la gérer dans le temps. Et Ecogaz ne disparaît pas à ce moment-là, puisque la coopérative Ecogaz continue à apporter une expertise sur toutes les questions qui dépassent, je dirais, que le secteur agricole, c'est-à-dire les mises aux normes industrielles, les problèmes de respect de la législation, les problèmes de maintenance industrielle, etc. Et cette coopérative Ecogaz va être aussi garante à la fois de l'ancrage avec le territoire, du lien avec les collectivités locales, du lien avec tous les gens qui sont sur le territoire, et va être garante aussi de la solidarité entre différentes unités de méthanisation pour pouvoir échanger des machines, des équipements, éventuellement des moyens, des compétences, etc. Donc en fait, on bâtit un environnement coopératif. Au départ, en partant du constat que la méthanisation est difficile puisque c'est un secteur qui n'appartient pas à l'agriculture et surtout qu'elle demande énormément de moyens financiers pour investir. Or, l'agriculture aujourd'hui dans nos départements n'a plus ou n'a pas ces moyens financiers. Mais pourtant, elle a besoin de la méthanisation pour compléter des revenus, pour traiter des effluents qui sont quand même aujourd'hui, qui posent des contraintes sur des territoires qui sont ruraux et urbains. Et puis, elle a besoin aussi de cette méthanisation qui est une opportunité pour améliorer les pratiques agricoles et limiter les entrains minéraux et se préparer à la transition environnementale, puisque par des meilleures fertilisations, eh ben, on répondra beaucoup mieux aux enjeux environnementaux. Au manque d'eau à certaines périodes, à trop d'eau à d'autres périodes, on sera beaucoup plus en mesure de pouvoir encaisser ces variations.
Moi, j'ai tout compris, hein. Ça veut dire que vous, Sophie, vous êtes un maillon clé de l'avenir de l'agriculture, puisque effectivement, on découvre dans vos propos des enjeux stratégiques considérables autour de l'avenir de nos exploitations agricoles. Donc, je mesure encore plus que jamais combien il est important aussi d'avoir des acteurs comme vous, des compétences expertes pour permettre justement de créer de la valeur ajoutée différemment, tout en restant dans le cœur de son métier. Chacun à sa place, hein, c'est ça. Hein.
Tout à fait, mais en fait, on peut y arriver que si on est nombreux autour de la table. Puisque ces installations imposent une multitude de compétences et une multitude de moyens. Et d'ailleurs, je profite de cette opportunité. La coopérative aujourd'hui lance un appel pour des gens qui auraient envie de participer au projet. Et on lance un appel pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'argent dans ce projet, en sachant que ça sera de l'argent qui sera mis dans les projets comme on pourrait le mettre dans une banque, puisque c'est de l'argent qui rapportera un petit peu des intérêts. Et je dirais qu'à partir de 1 000 euros, tout le monde peut apporter sa part à l'édifice et participer à ce projet, en sachant que du coup, les gens seront véritablement acteurs de la coopérative, puisque du coup, ils rentrent dans l'actionnariat de la coopérative.
Donc Sophie, alors ça c'est quand même une information très importante, c'est-à-dire que si on habite sur ce territoire, on veut être acteur de développement, on est convaincu que la dimension que vous portez est essentielle, plutôt que laisser dormir son argent sur des épargnes, faire vivre cet argent dans les investissements et dans le développement local, on peut le faire avec la coopérative. Donc peut-être laisser un contact, soit internet, soit un contact téléphonique pour les auditeurs qui seraient intéressés.
Un contact internet, vous pouvez aller sur le site donc de Ecogaz. Ecogaz, c'est Ecaogaz, avec l'accent bigourdan. Donc c'est la vache qui produit du gaz. Je ne sais pas si je peux donner un numéro de téléphone.
Oui, vous pouvez.
Bon, moi, je peux donner mon numéro de téléphone, donc le 06 70 71 28 87. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, tout le monde a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que tout seul, les agriculteurs aujourd'hui n'auront pas les moyens d'apporter les fonds propres qu'exigent les banques pour pouvoir leur prêter de l'argent. Et inversement, eh ben, en travaillant à ça, ils permettent d'améliorer notre environnement parce qu'on n'aura plus ces odeurs de fumier et de lisier au moment des épandages. Et on sait qu'on va du coup tous ensemble vers des pratiques qui sont vertueuses pour nous tous, quoi. Et c'est vrai que la production de gaz, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés. Je dirais, on est tous intéressés par cette énergie, quoi.
Merci infiniment, Sophie. On arrive à la fin de cette émission. Donc, chers auditeurs, si un jour vous avez la curiosité de venir jusqu'à Ibos, en fait, la structure est juste à côté d'AgriVision, donc derrière le Méridien.
Oui.
Hein, donc, il y a d'ailleurs une station qui distribue du GNV.
Oui.
Il y a des poids lourds qui viennent charger là en GNV pour rouler. Hein, donc, n'hésitez pas. Si elle est là, vous lui venez dire c'est super ce que vous faites. Et tout simplement, et ça l'encouragera. Merci beaucoup, Sophie.
Merci beaucoup.
Je pense que vous avez ouvert des vocations nouvelles et puis des ambitions nouvelles à tous nos auditeurs. Et puis, écoutez, plein de réussite pour votre projet et merci encore. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup et à bientôt. Et bienvenue sur la station d'Ibos, qui est aussi une société en économie circulaire avec des acteurs locaux. Et si vous passez par là, je vous expliquerai tout ça et je vous ferai visiter nos installations.
Merci encore. Au revoir.
Voilà, merci à Benoît Guillard. Nous étions à côté de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, donc sur cette commune d'Ibos. Merci à son invité, hein, Sophie Villard. Mais la suite de cette émission, dans un instant, c'est avec un recueil de nouvelles sur notre rapport avec la nature. C'est avec toute l'équipe d'Un jour, un livre, un auteur. Philippe Subercase, Diego Arabal et Philippe Noni s'installent en studio. On les retrouve juste après le journal régional présenté par Éric Leclerc. Bonjour Éric.
Bonjour, organisation temporaire des urgences adultes du CHU de Toulouse. En raison d'une tension temporaire sur les effectifs médicaux des urgences, dans un contexte national de difficultés de recrutement sur cette spécialité, le fonctionnement des urgences adultes de Purpan et Rangueil est modifié pour les mois de novembre et décembre. Objectif, sécuriser le dispositif d'urgence préhospitalière et de maintenir la capacité d'accueil des urgences nécessitant le plateau technique du CHU de Toulouse. L'enjeu est également de préserver les conditions de travail des professionnels. L'activité des urgences adultes est recentrée sur les zones d'admission et la prise en charge des patients nécessitant des soins hospitaliers ou une hospitalisation. Les patients ne nécessitant pas de prise en charge relevant du CHU seront accueillis et réorientés par un infirmier et ou un médecin d'accueil et d'orientation vers un médecin de ville ou une structure adaptée en lien avec le service d'accès aux soins. Les urgences sont destinées aux situations les plus graves. Pour les besoins médicaux non urgents, le CHU de Toulouse recommande aux patients de contacter en priorité leur médecin traitant ou d'appeler le 15 avant de se déplacer. Hier matin, un semi-remorque a traversé le rail central de l'autoroute A75, non loin du viaduc de Millau, à hauteur de la commune de Saint-Germain en Aveyron. Celui-ci a provoqué de gros dégâts, une fuite de carburant sur la chaussée. L'accident a mobilisé 6 sapeurs-pompiers, des agents de la direction des routes et des infrastructures, ainsi que la gendarmerie. Aucun blessé n'est à déplorer. Après plusieurs mois de travaux, les Ruthénoises et Ruthénois ont découvert ce week-end les nouvelles halles de Rodez, ce lieu entièrement repensé s'affirme comme un espace de vie, de partage et de convivialité au service de la population. Les halles occupent en effet l'emplacement même où fut érigé en 1880 le premier marché couvert de Rodez. Avant sa destruction en 1930, les halles de Rodez s'imposent comme un pôle alimentaire et convivial. Ce nouvel espace a pour vocation de devenir un lieu de rencontre, d'échange et de découverte. Salon de l'enseignement supérieur de Montauban. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition le 22 novembre. Les objectifs sont multiples, notamment apporter des réponses aux besoins des familles et renforcer l'orientation et la valorisation des formations post-bac du territoire. Cet événement vient également favoriser l'interconnaissance entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de l'orientation et de la vie étudiante. Durant une journée, l'événement proposera stands et ateliers abordant l'ensemble des questions relatives aux études supérieures et à la vie étudiante. Seront représentées toutes les formations post-bac disponibles dans les établissements publics et privés du Tarn-et-Garonne, que ce soit les BTS, les licences, les masters et la classe préparatoire aux grandes écoles. Le salon de l'enseignement supérieur se déroulera à Eurythmie, à Montauban, samedi 22 novembre, de 9h à 17h. Retrouvailles, c'est le nom de l'exposition présentée jusqu'au 13 décembre au Carmel de Pamiers. Pour fêter ses 3 ans en tant que lieu d'art contemporain, le Carmel rappelle à lui tous les artistes qui ont imprimé de leurs œuvres l'histoire du bâtiment au fil des expositions et s'associe au musée des abattoirs de Toulouse.
Merci Eric Leclerc. Retour de l'info à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Ils sont en studio, c'est toute l'équipe d'Un jour, un livre, un auteur.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Bonjour Philippe Noni.
Bonjour Philippe Subercaz.
Alors peut-être que Diego Arabal viendra nous rejoindre pendant l'émission. Là, il a pris un petit peu de retard.
Ouais, il est sur la route. Là, il nous a appelé. Voilà. Il avait un peu de retard, donc on l'aura effectivement certainement en cours d'émission.
Alors, je vous propose tout simplement de nous dire un peu le sujet de l'émission que vous allez traiter aujourd'hui.
Eh ben, je vais vous dire ça, Philippe Subercaz. Donc, dans une époque où l'on interroge un peu plus chaque jour qui passe le rapport de l'être humain avec le vivant, c'est-à-dire le rapport de l'être humain avec tout ce qui nous entoure, les forêts, les animaux, les océans, les fleuves, les rivières, on devrait s'arrêter un instant sur ce recueil de nouvelles. Humanimal, aux éditions Unicité. C'est un titre comme un lien entre ce que nous avons été et ce que nous sommes, ou peut-être entre ce que nous sommes devenus et ce que nous sommes toujours, des êtres humains et des animaux. Pour en parler, nous recevons son auteur. Bonjour Viviane Campomar.
Bonjour.
Viviane Campomar, avant de présenter votre nouvel recueil de nouvelles, donc Humanimal, présenté aux éditions Unicité, pour préparer cette émission, j'ai regardé, donc on vous avait reçu déjà pour le recueil de nouvelles « J'irai mourir à Odessa » publié chez pour les Mike Éditions. Et vous aviez été, à l'époque je ne le savais pas, la dernière lauréate du prix de la Nouvelle d'Angers. Vous le saviez ?
C'est ça. Oui, c'est ça. 2020.
Voilà, en 2020. Voilà, et donc, bon, il y a eu la Covid. C'est vrai que la Covid a remis en cause beaucoup de salons du livre, beaucoup de prix littéraires. Voilà, donc je voulais le rappeler, hein, aujourd'hui, qu'on vous invitait effectivement pour Humanimal aux éditions Unicité, mais rappeler aussi, puisqu'il est toujours disponible, qu'il y a votre très beau recueil de nouvelles pour lequel vous avez reçu donc sur présence, donc J'irai mourir à Odessa, publié chez Paul et Mike Éditions, qui avait eu donc le prix de la Nouvelle d'Angers. Vous étiez en compétition, j'ai regardé sur le site, avec 61 donc, manuscrits, hein, c'était un prix littéraire distribué sur la base d'un manuscrit, donc concours qui se faisait en partenariat avec les éditions Paul et Mike, avec d'autres maisons d'édition avant, mais la dernière maison d'édition existante avec laquelle ça s'est fait, c'est les éditions Paul et Mike, et notamment votre recueil de nouvelles, J'irai mourir à Odessa. Allez, on revient à votre recueil de nouvelles, donc son titre Humanimal, publié aux éditions Unicité. Je vais lire la quatrième de couverture. Humanimal est bien plus qu'un jeu de mots. C'est le là du livre, la note qui va faire vibrer chaque page. La voix maîtresse est celle d'une jeune thésarde en biologie qui a pris le tardigrade comme sujet d'étude. Le tardigrade, animal lilliputien, capable de survivre aux conditions les plus extrêmes. Et cette voix laisse place à d'autres voix dans un glissement discret et attentif au devenir animal. L'autrice nous fait entendre le hérisson qui refuse sa captivité, entendre aussi le groin-groin d'une truie qui rend toute sa dignité à un homme, peut-être bien son frère jumeau. Ne venons-nous pas, après tout, de l'animal ? Voilà pour ce recueil de nouvelles, Viviane Campomard. Alors, première question, une chose qui m'a étonné, en première page, donc, en première de couverture, pardon, le titre Humanimal s'écrit H-U-M-A-N-I-M-A-L, d'accord ? Et il s'écrit d'une manière différente, notamment sur la quatrième de couverture, mais aussi à l'intérieur. Il s'écrit Humanimal, U-M-A-N-I-M-A-L-E, avec un E donc dans les pages intérieures de votre recueil de nouvelles. Je vous avoue que ça m'a interpellé. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Oh, c'est un petit peu un jeu entre, finalement, Humanimal, on est tous Humanimal, donc féminin comme au masculin, en fait. C'est un petit peu ce jeu sur le féminin masculin et tantôt l'un, tantôt l'autre. Voilà. Mmh. Et après, de toute façon, c'est repris, ce titre est repris dans une nouvelle qui s'appelle Humanimal.
Qui s'appelle Humanimal, tout à fait, à l'intérieur. Voilà. Voilà, mais qui s'écrit par contre avec un E. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une erreur de frappe ? Je lui ai dit quand même non.
Il s'écrit avec un E, mais à l'intérieur, il y a aussi un Humanimal avec sans E. Donc, c'est un petit peu le jeu sur la duplicité de l'Humanimal.
De l'Humanimal, d'accord. Alors, la particularité de votre nouveau recueil de nouvelles, hein, Humanimal, donc aux éditions Unicité, c'est de nous interroger dans notre rapport au monde et plus particulièrement dans notre rapport au monde animal. Vous rentrez tour à tour donc dans la tête de différents animaux et de leurs réflexions sur le monde qui est le nôtre, ou alors vous observez nos comportements, comme moi cette nouvelle qui m'a beaucoup touché, dans la très belle nouvelle du hérisson. Quelle a été votre volonté dans ce recueil de nouvelles ? Celle de nous sensibiliser, de nous inciter à réfléchir à ce qui est en train de se produire, à savoir le réchauffement climatique et l'extinction d'espèces animales ?
Oui, un petit peu. Donc à travers des histoires, donc c'est vraiment plutôt des histoires que des nouvelles. Oui, je voulais faire réfléchir les gens sur le lien entre l'humain et l'animal, et ce lien qui n'est pas forcément pérenne si on continue à faire n'importe quoi avec la planète. Donc oui, il y a un petit peu, il y a une dernière nouvelle d'ailleurs qui est plus directement écologiste, si on peut dire, c'est avec le chameau.
Tout à fait, avec le chameau.
La vengeance du chameau, voilà, qui fait un petit peu réfléchir sur ce qu'on est en train de faire avec la planète aussi.
Alors, dans votre recueil de nouvelles, il y a un fil rouge, donc qui se nomme, hein, on le voit dans la quatrième de couverture, le tardigrade. Alors, moi, je vous avoue, je ne savais pas ce qu'était le tardigrade, donc j'ai cherché. Et au départ, je pensais que c'était une invention de votre part. Donc, je me disais que la quatrième de couve, lorsque vous écrivez le tardigrade, animal lilliputien capable de survivre aux conditions les plus extrêmes, je pensais que c'était un animal que vous aviez créé. Et puis, j'ai cherché. Et Je suis tombé sur ça, comme j'ai eu la curiosité d'aller regarder. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de trouver cela joli. Le tardigrade, long de 0,1 à un peu plus de 1 mm. Les tardigrades sont des animaux extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent survivre dans des environnements extrêmes, et là c'est ça qui est incroyable, des températures qui peuvent aller de moins de 172 degrés à plus 150 degrés, de résister à des pressions allant jusqu'à 6000 bars. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que là on est dans une atmosphère qui est une atmosphère à 1 bar, c'est-à-dire une atmosphère 6000 fois plus importante que celle dans laquelle on vit. Et donc ils peuvent être exposés dans un milieu anhydrique ou exposés au rayonnement ultraviolet ou au rayon X ou même dans le vide spatial et survivre. Pourquoi avoir choisi le tardigrade comme fil rouge de votre recueil de nouvelles, William Campomar? Qu'est-ce que vous avez voulu nous exprimer à travers cet animal qui existe réellement et donc j'ai découvert, moi, l'existence?
Alors, c'est aussi un petit peu amusant. Ce fil rouge est aussi amusant, qui relie les différentes nouvelles. C'est une jeune thésarde qui est en train de travailler sur sa thèse et en fait qui fait de la bibliographie et qui tombe sur des histoires qui n'ont rien à voir avec son travail en réalité. Donc elle est censée travailler sur le tardigrade. Le tardigrade, c'est un petit animal, effectivement pas forcément sympathique parce que ce n'est pas un mammifère, hein, ça ressemblerait à un petit acarien, c'est très très moche aussi. Et elle travaille là-dessus et c'est encore un objet d'étude. Le mystère, vous avez raconté un petit peu les conditions extrêmes dans lesquelles vivait le tardigrade, mais ça reste encore un mystère et on essaye encore de comprendre cette adaptation incroyable. Alors il y a plusieurs choses. Le tardigrade, c'est d'abord on l'appelle un marcheur, ça veut dire marcheur lent, le nom tardigrade. Marcheur lent. Et donc, dans notre société qui va à toute allure pour tout, où il faut toujours aller très 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 vite, j'aime bien ce petit personnage qui, au contraire, prend son temps pour vivre et va découvre la vie lentement, en marchant très lentement. Donc déjà, il y a un petit peu ce clin d'œil-là. Et puis ensuite, cet animal qui survit dans des conditions extrêmes, alors que nous, l'être vivant, doit avoir des conditions de vie mais très 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 limitées. On supporte des températures, les températures basses, on a du mal à les supporter. Les températures élevées, on le voit aussi. Hein, chaque été, on nous dit.
On le voit avec tout à fait.
Comment on va faire, etc. Et effectivement, l'humain a du mal à s'adapter à quelques degrés de plus. Donc, c'était un petit peu par opposition aussi au vivant en général, l'humain et l'animal, et qui, par rapport au tardigrade, il a beaucoup plus de mal à s'adapter à ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut faire un petit peu attention avec notre terre.
Et je trouve qu'il est bien ce fil rouge avec le tardigrade que vous prenez, parce que il y a effectivement, vous évoquez à travers le tardigrade, alors indirectement, la lenteur. C'est-à-dire, la lenteur, c'est notre ennemi aujourd'hui. On a bien compris dans ce que vous écrivez, c'est-à-dire, le temps est devenu quelque part notre ennemi, on cherche à le compresser, sauf que quelque part, ce que vous dites en fil rouge, enfin, en creux de votre recueil de nouvelles, c'est que le temps, de toute manière, il est incompressible, on ne pourra pas arriver à le comprimer. Et puis, vous faites un peu, quelque part, une mise en perspective entre l'être humain et le tardigrade. Donc, quand on voit le tardigrade, hein, je répète, hein, long de 0,1, donc un petit acarien, comme vous dites, à un peu plus de 1 mm, des animaux extrémophiles, hein, donc capables de survivre dans des environnements extrêmes avec des températures de moins de 172 degrés à plus 150 degrés. Moi, j'ignorais que sur Terre, ça existait. Avec des pressions allant jusqu'à 6000 bars, résistant au milieu ultraviolet, résistant donc au rayon X, résistant au vide spatial. Je me dis, mais putain, absence d'oxygène.
Résistant aussi à la radioactivité. Il résiste à énormément de choses. Donc c'est un petit peu, effectivement, une sorte de miroir qu'on tend à l'humain, que je tends à l'humain de façon humoristique.
De façon humoristique, ouais.
Voilà.
Et, Et vous en parlez bien en page 111. En page 111, vous faites presque une déclaration admirative dans votre recueil de nouvelles, donc au Tardigrade, et je ne vais pas me priver de lire un passage, donc c'est en page 111 de votre recueil de nouvelles Humanimal, publié aux éditions Unicité. Ça s'intitule « La balade du Tardigrade ». Qui es-tu exactement ? Toute cette littérature scientifique m'a donné le tournis. J'ai l'impression d'avoir écrit une spirale divergente autour de toi. Toi, fébrile haricot rose-gris, tu me nargues. Après des semaines à tes côtés et l'élaboration encore assez vague de projets te concernant, je crois te connaître mieux et pourtant j'ai tout à découvrir de toi. Tu te prends pour le centre du monde, mais mon gradounet, côté orgueil, tu n'arrives pas à la cheville de l'humain. Au demeurant, pour ce qui est du système nerveux, chez toi, c'est le néant, avec seulement 40 000 cellules. Tu ne vas pas bien loin. Pas le moindre micro-circuit neuronal qui te donnerait le millionième de l'intelligence du poulpe. Et les mammifères te regarderaient de haut s'ils se doutaient de ton existence, justement sur son existence. Comment vous avez découvert le tardigrade, Viviane Campomar ?
Alors, je suis enseignante en physique-chimie dans une classe préparatoire d'étudiants qui étudient la biologie. Et c'est au contact de ces étudiants que j'ai découvert le tardigrade. Eux connaissent, eux travaillent sur le tardigrade et ils m'ont fait découvrir le tardigrade. Voilà, c'est pour ça que aussi dans la dédicace, il y a un petit clin d'œil, il y a une promotion qui s'appelait la promotion tardigrade de mes étudiants.
Et qui s'appelait réellement la promotion tardigrade.
Ils se donnent des noms chaque année.
D'accord.
Chaque année, il y a un nom différent. Et une année, c'était la promotion tardigrade.
Et comment ils ont trouvé ce nom, tardigrade ? Comment c'est venu ?
Ah, mais eux, ils le connaissent. Ça fait partie des animaux qu'ils connaissent. Les biologistes connaissent le tardigrade.
Bon, parce que moi, j'ai 60 ans et je vous avoue que je n'ai jamais connu le tardigrade. Je ne sais pas si Philippe Subercase connaît le tardigrade. Ça vous dit quelque chose, le tardigrade, Philippe Subercase ? Vous avez entendu un peu la capacité de cet animal ?
J'en avais entendu parler, mais effectivement, non, je ne sais pas plus que ça, mais j'en ai entendu parler, oui.
C'est quand même étonnant, hein, vous avez entendu, hein, capable de résister de moins 72 degrés à plus 180 degrés, capable de résister aux rayons X, capable de résister aux rayonnements ultraviolets, capable de résister au vide spatial.
Oui, et il y en a même un qui est capable de se régénérer, c'est-à-dire qu'il ne vieillit pas. Je ne sais pas si c'est le même animal ou le même. On a trouvé un animal qui était capable de générer. C'est-à-dire que son cœur ne vieillit pas. Alors, les cellules, elles se rechangent.
Est-ce que c'est celui. Non, c'est le même animal dont on parle, ou l'humanimal dont on parle, pour reprendre le titre de votre recueil de nouvelles, Viviane Campomar ?
Oui. Mais alors après, la balade du tardigrade qui revient régulièrement dans le recueil, permet d'aller de façon radiale, de distribuer de façon radiale des histoires, et qui vont être plus d'animaux qui sont plus proches de nous, donc une lait, le sanglier, un sanglier, un hérisson, comme vous en avez parlé, un poulpe, bon, et puis qui permettent d'aborder différents aspects en fait de notre lien entre l'humain et l'animal, et ça c'est à travers le tardigrade en fait, bon, mais donc après je décline plusieurs liens différents du tardigrade, et notamment la maltraitance animale dans la nouvelle Rosalie par exemple, hein, qui est un jeune homme qui travaille dans un abattoir qui tue des vaches, donc c'est quand même assez terrible. Et ça aussi, c'est traité avec humour et ironie, l'ironie du désespoir, en fait.
Et ce que j'ai... Alors justement, vous parliez du hérisson à l'instant, je vous disais, moi, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup touché. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle a ravivé mes rencontres multiples avec des hérissons, hein. Moi, j'ai toujours habité dans une maison avec des jardins, voire des grands parcs. Et donc, des hérissons, j'en ai vu beaucoup. Et je me rappelle notamment, et ça m'a rappelé ça, cette nouvelle, celle où le chien de mes parents avait retourné le hérisson et se heurtait à ses piquants, ce qui le faisait aboyer comme un fou en pleine nuit. On se demandait ce qui se passait. Et alors, cette nouvelle, c'est en page 31 de votre recueil de nouvelles, donc Humanimal aux éditions Unicité. Je vais lire un extrait du Hérisson parce que je l'ai trouvé très très belle cette nouvelle. Elle m'a beaucoup touché. Qu'est-ce que c'est que ce raffut encore ? Ça vient de la cuisine. Ça doit être le Hérisson. Jusqu'à présent, il s'était tenu à carreau, gros père paisible. Et voilà qu'il s'agite comme un diable dans sa cage artisanale. Il va finir par me réveiller la petite. Déjà que par ma faute, elle s'est couchée à pas d'heure. Si sa mère avait vu ça. Moi, j'ai renoncé à m'endormir, je n'y parviendrai pas. Ça tourne trop dans ma tête. C'était une bêtise de le capturer, ce hérisson. Je le savais bien, mais comment résister à la petite ? Ça lui faisait tellement plaisir. Elle était surexcitée à l'idée de le récupérer dans le jardinier, à la perspective de le sauver. C'est toujours comme ça. Une partie de l'humanité veut sauver. Une partie de l'humanité veut sauver. Hop, j'ai pas arrêté mon portable, j'aurais dû. Hop. Voilà, on va juste refaire. Alors, Philippe, on refera juste un point. Je vais reprendre parce que j'avais oublié d'éteindre mon portable. C'est toujours comme ça. Une partie de l'humanité veut sauver le monde qui pourtant n'a rien demandé à personne. À son âge, la petite est pardonnable. D'autant que ce doit être mon éducation qui est défaillante. Mon autorité molle, comme dit sa mère. Le sauver de quoi ai-je suggéré à la petite ? Est-ce qu'il a besoin d'être sauvé ? J'ai tenté de lui expliquer qu'il était tout simplement en vadrouille, que peut-être il avait son nid dans le jardin, bien caché. Un nid, ça ressemble à quoi un nid de hérisson ? En tout cas, que l'hérisson est un animal nocturne. Le soir, il se met en route pour son petit tour. C'est l'instinct, il a ses habitudes. Et la probabilité est faible qu'il se perde dans un jardin qu'il connaît comme sa poche. Ça l'a beaucoup fait glousser, ça. Que le hérisson connaisse le jardin comme sa poche. Il n'a quand même pas une poche de kangourou, le hérisson, a-t-elle rigolé. Dans cette nouvelle, votre objet, on le sent, c'était quelque part de démonter nos préjugés sur le monde animal en général, et le hérisson en particulier, c'est-à-dire de dire, ben, par moment on essaye de sauver les animaux, on se rend compte quelque part qu'en essayant de les sauver, ben, on leur fait plus de mal qu'autre chose.
Oui, là c'est un, oui, c'est un petit peu humoristique de ce point de vue-là, parce que effectivement la petite fille veut, elle voit un hérisson dans le jardin, elle veut le sauver entre guillemets, si on peut dire, et donc attraper le hérisson et le mettre dans la cuisine. Mais évidemment, le hérisson ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et lui se débat comme un diable, il veut retourner dans son jardin, qui est son pays, son domaine, sa vie. Donc c'est un petit peu ça, c'est cette nuit où le hérisson, finalement, va s'agiter de toutes ses forces comme un beau diable.
Et faire un raffut terrible dans la cuisine, quoi, et réveiller la grand-mère, mais pas réveiller effectivement la petite fille, qui elle dort très bien parce qu'elle est persuadée qu'effectivement, ben, elle le protège et elle peut s'endormir sur ses deux oreilles pensant qu'effectivement, le hérisson sera tout à fait à l'aise.
Oui, c'est le père avec la fille.
Le père. Et c'est là où je trouve que, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de le retenir pour en parler, ce recueil de nouvelles, parce que c'est vrai que, après l'été, effectivement, que l'on a passé, hein, caniculaire, vous en parliez tout à l'heure, là, il y a eu un bilan qui a été fait il y a quelques semaines. On a vu qu'il y a des milliers de personnes, effectivement, à nouveau, notamment des personnes âgées, fragiles, qui sont mortes du fait de la chaleur et du fait, effectivement, de l'inconséquence que l'on a par rapport au réchauffement climatique. Et je trouve qu'il est vraiment intéressant, votre recueil de nouvelles, parce qu'il offre, alors pas du tout un regard condescendant ou un regard moralisateur ou moraliste, du tout. Il y a beaucoup d'humour, et par le biais de l'humour, vous tentez effectivement de nous faire réfléchir sur le devenir et le rapport que l'on a au monde. Et quand j'ai lu votre recueil de nouvelles, tous les jours je vais marcher, et quand je marche, je croise des gens qui courent, et qui court en pleine nature avec un casque sur les oreilles. Et j'ai pensé à votre recueil de nouvelles quand je le lisais en me disant, mais il devrait lire Humanimal parce qu'en fait, il se coupe du monde. Et donc, quelque part, en se coupant du monde, on a un rapport au monde qui se modifie profondément. Vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faudrait faire, Viviane Campomard ? Alors, hormis votre recueil de nouvelles, donc on recommande de lire Humanimal aux éditions Unicité, pour essayer de changer ce rapport au monde que l'on a avec le monde animal, notamment les forêts, en fait tout ce qui nous entoure.
Déjà, ouvrir les yeux et regarder notre monde qui nous entoure, le regarder avec émerveillement, parce que cette nature qu'il y a autour de nous, ce vivant, ces animaux sauvages, le loup, à un moment, il y a l'émerveillement d'un petit garçon qui aperçoit un loup. Bon, ça se passe en Sibérie, donc il y a plus de chances de voir un loup. Voilà, et c'est important, c'est ça, justement là, dans cette nouvelle, c'est un petit garçon. Donc, avec tout l'émerveillement qu'ont les enfants, cette capacité d'émerveillement, et qu'on perd un petit peu à l'âge adulte. Et donc, c'est aussi ça, essayer de retrouver cet émerveillement dans la nouvelle qui s'appelle « Ça cochonne » aussi, c'est une nouvelle qui a une fin un peu plus énigmatique et presque fantastique. On ne sait pas trop ce que deviennent et l'humain et l'animal. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est la nouvelle la plus fantastique du recueil. Donc, pour regarder un petit peu le monde qui nous entoure, un petit peu différemment, avant de pouvoir effectivement agir, essayer d'agir pour préserver un peu plus ce cadeau de la nature. Voilà, je pense.
Humanimal, donc aux éditions Unicité. On va terminer cette interview. Viviane Campomard va parler un peu de votre actualité littéraire, vos dédicaces et puis vos projets littéraires à venir. Donc, je le disais tout à l'heure, on vous avait déjà reçu pour J'irai mourir, donc à Odessa, votre recueil de nouvelles, donc publié chez Paul et Mike, qui avait obtenu donc le prix de la Nouvelle d'Angers en 2020. Là, pour Humanimal, éditions Unicité, c'est quoi vos prochains projets littéraires?
J'ai un roman en cours qui est quasiment fini, qui cherche éditeur, donc ce n'est pas facile.
Bon, donc on lance aux éditeurs et aux éditrices qui nous entendraient sur Présence, donc Viviane Campomard, vous allez sur Internet, vous tapez, sur Internet, Viviane Campomard, C-A-M-P-O-M-A-R, elle recherche une éditrice ou un éditeur pour son nouveau roman. Vous avez des dédicaces qui sont prévues là, sur Noël, pour justement...
En novembre, je dois avoir une soirée littéraire au Mardi littéraire de Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice à Paris.
D'accord.
Voilà, un petit café très sympathique.
Ça sera quelle date au mois de novembre? Vous avez la date?
Le mardi 18 novembre.
Mardi 18 novembre, ok.
Mardi littéraire, voilà.
Mardi littéraire.
Ceux qui seraient en région parisienne.
Bon,
et bien... Au café de la mairie.
Bon, et bien tout à fait. Ben écoutez, tout ça, c'est noté. Vous reviendrez vers nous, Viviane Campomard, on compte sur vous, quand vous aurez effectivement votre nouveau roman qui sera... sorti, donc de pouvoir le recevoir comme on fait habituellement sur Présence en service de presse, et puis après donc pouvoir vous interviewer sur l'antenne de Présence, et puis bon, vous savez qu'après les émissions sont podcastées, pour que, je le rappelle, tous les auteurs qui sont interrogés puissent ensuite le mettre sur les pages des réseaux sociaux qui leur permettent effectivement aussi de parler de ce qu'ils ont écrit. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe Subercaz, aujourd'hui, pour Viviane Campomard, Humanimal, aux éditions Unicité.
Eh bien, émission très intéressante, une fois de plus, Philippe Noni, merci beaucoup à vous.
Et le tardigrade, vous irez voir le tardigrade, Philippe Subercaz.
On a encore beaucoup à apprendre, bien sûr, des animaux.
Et vous entendez ce qu'elle disait, Viviane Campomard, le tardigrade, on ne sait pas encore aujourd'hui réellement comment il arrive effectivement à faire tout ça. On a beaucoup de choses à découvrir.
Eh oui. Et puis il y a plein d'espoir aussi, peut-être thérapeutique derrière, si on comprend.
Sait-on jamais.
Voilà. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci. Viviane Campomard, merci beaucoup. Et puis on vous dit à une prochaine fois, et on incite nos éditeurs et nos auditrices à aller se procurer votre recueil de nouvelles Humanimal chez Édition Unicité. Merci, à bientôt, Viviane Campomard.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà. Au revoir. Et puis, bien sûr, on en parlera à Diego Rabal, qui, j'espère, a écouté cette émission sur la route, puisqu'il n'était pas là.
Il était sur la route. Et je pense qu'il nous écrira peut-être un polar avec le tardigrade.
Peut-être, sûrement.
Tardigrade évolué, qui pourrait, à un moment donné, commettre des crimes. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien, cette histoire avec Diego Rabal.
Je suis convaincu. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir, Viviane.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercaz. We'll be right back.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence à Cahors. 92.5. Présence dans le Comminges, 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Audience générale de Léon XIV consacrée au 60e anniversaire de Nostra Aetate. Si nous sommes unis.